France Inter.
L'écrivain et scénariste Gaël Obiegli signe aussi des collaborations avec des artistes comme Pierre Weiss ou Valérie Mregène ou des chorégraphes. Son premier texte publié s'appelait « Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique » et cela suffit à avoir envie de la rencontrer. Cette actrice occasionnelle sonde son environnement en semblant vouloir se dissoudre dedans. Son écriture est poétique, ludique et profonde. Le 10 janvier dernier, elle a publié le livre « Sans valeur ». C'est le titre du livre « Pas un jugement » aux éditions Bayard. Le livre est super. Un récit autobiographique mêlant réflexion politique et philosophique sur la distinction entre le déchet et l'archive. Au lieu de trier ses affaires pour le déménagement qu'elle s'apprête à effectuer, la narratrice ajoute à ses possessions un petit tas d'ordures trouvées dans la rue, amoncellement mystérieux qui l'émeut et l'intrigue. Dedans, des journaux intimes, des photos, un billet de PMU et les fragments d'une autre vie qu'elle va s'approprier par diverses projections, parfois fantaisistes et d'autres fois trop lucides pour égayer. Pourtant, l'écriture de Gaël Obiegli dissout n'importe quelle insipidité ou laideur, soit les composantes majoritaires du réel, par l'enchantement de son écriture. Chers auditeurs, avez-vous déjà pensé à ce qui était digne d'être conservé ou jeté? J'irai plus loin, avez-vous pensé à la vie de vos objets après votre mort? Ne partez pas, laissez-moi vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans le Grand Canal de ce soir.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Gaël Obiegli.
Bonsoir.
À quoi avez-vous plus pensé aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à une personne qui se trouve dans un livre, dans le livre que je suis en train de lire, et que j'ai récupéré ce matin à la librairie, je l'avais commandé. Ça s'appelle Kumiko, c'est écrit par Anna Dubosc, et c'est un texte où elle parle de sa mère qui perd la tête. Voilà, et donc je pensais beaucoup à elle.
Puisque nous sommes à la radio et que c'est votre voix que les auditeurs vont entendre dans l'heure qui vient, je voudrais revenir sur un propos que vous avez tenu dans Le Monde en 2017. Vous dites, Gaël Obiegli, « Enfant, mes propos dérangeaient les adultes qui me trouvaient d'une maturité anormale. J'ai pu passer pour une enfant surdouée, mais adulte, j'ai l'air d'une idiote en raison de ma voix. À cause d'elle, on n'accorde pas d'importance à ce que je dis. C'est pour ça que j'écris, bien sûr. Pourquoi ?»
Pourquoi ?
Qu'est-ce qu'elle a cette voix qui fait qu'on ne vous prend pas au sérieux ?
J'ai une voix qui n'a pas mué. Normalement, même les filles ont une transformation de la voix. Mais la mienne n'a pas changé. Ce qui fait que souvent, on ne prend pas au sérieux ce que je dis parce que j'ai pas une voix qu'on prend trop au sérieux. Et alors, il m'arrive d'en profiter. Par exemple, vous savez, quand il y a parfois des commerçants qui téléphonent pour vendre des fenêtres, des assurances et tout ça. Alors moi, grâce à ma voix, je peux leur dire que mes parents ne sont pas là. Donc ils n'insistent pas.
Je reprends le terme « idiote » que je cite de votre bouche, Gaël Obiegli, « Dans N'être personne, vous écrivez « Mon idiotie est un promontoire d'où je vois la beauté se gâcher ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que... Alors, le personnage, la figure de l'idiot, pour moi, c'est presque une figure de sainteté. C'est-à-dire, il y a une...
Comme chez Dostoïevski.
Oui, voilà, comme chez Dostoïevski. Il y a une innocence, une intelligence qui s'ignore et qui est souveraine, paradoxalement. Et quand je parle de beauté et de promontoire, c'est que il me semble que grâce à l'idiotie, on est exclu et on est exempté de la vanité et de certains discours en fait qui gâchent bien des choses.
Et cette idiotie, c'est plutôt de la candeur ou de l'innocence ?
Je ne sais pas si c'est de l'innocence ou c'est de la
ou de la pureté.
Candeur ou de la pureté. Je pourrais pas dire ça. En tout cas, pas pour moi-même, quoi. Mais non, je sais pas, c'est tout simplement une singularité, une impossibilité à être autrement.
Oui, ça me fait penser à Clément Rosset qui a parlé de la figure de l'idiot et de sa singularité.
Oui.
Gaëlle Obiegli, dans Art Press en 2022, vous avez dit « Ce n'est pas grave si on ne me comprend pas du moment qu'on m'écoute.
» Mais ça, c'était dans mon livre précédent qui s'appelle... j'ai oublié le titre. « Totalement inconnu ». Ce que je veux dire par là, c'est que la littérature... peu importe qu'on la comprenne ou qu'on la comprenne pas, c'est une question d'attention, c'est une question d'écoute, et c'est ce que je dis en disant cette phrase. Et c'est pas la littérature est pas là pour vous expliquer le monde. Vous n'allez pas peut-être pas comprendre tout de suite de quoi il s'agit, mais par votre écoute, par la musicalité, par votre attention à la voix qui se trouve dans un texte, eh bien, vous êtes transporté quelque part. Et la compréhension, elle vient souvent après.
Ça vous est déjà arrivé de absolument rien comprendre à un texte ?
Oui. Bah, par exemple, on parlait de l'idiot, enfin on a mentionné l'idiot tout à l'heure. L'idiot de Dostoïevski, c'est mon roman préféré, mais j'ai dû le lire, je crois, 7 fois avant de le comprendre. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai lu plusieurs fois, bien sûr je comprenais les phrases, les situations, etc. Mais le comprendre, c'est-à-dire l'intégrer, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et puis, quand ça a eu lieu en un instant.
Comme une épiphanie.
Oui, voilà. Situations occur when romance is a blur. It happens all the time. Send me a savior.
Crazy.
Gossip, le morceau Crazy Again.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Gaëlle Aubiégli, vous venez de publier Sans valeur aux éditions Bayard. Le livre précédent était totalement inconnu chez Christian Bourgois et vous avez aussi signé N'être personne. Sans valeur, totalement inconnu, N'être personne, ça sonne comme le cauchemar de beaucoup de gens.
Ouais.
Pas le vôtre.
Non, moi j'ai une fascination pour les gens qui désertent, qui se mettent en retrait, qui disparaissent. Je trouve ça héroïque. En tout cas, à notre époque, où tout le monde cherche absolument la reconnaissance, la gloire, la visibilité, je trouve que ceux qui sont indifférents à ça sont héroïques.
Vous êtes indifférente à ça ?
Non.
Adolescente, vous étiez la fille la plus silencieuse du lycée. Est-ce que vous avez le fantasme de l'effacement, de la dissolution ou simplement de l'anonymat ?
Je crois que c'est plutôt le fantasme de la dissolution. De la dissolution et de la métamorphose aussi. Le fait que dans une personne, il y ait plusieurs personnes et qu'il y ait comme ça une dissolution d'une identité à Paris. Apparition d'une autre, ces superpositions-là, ça m'intéresse beaucoup.
Sans pulsion de mort, ce fantasme de dissolution.
Si, toujours, j'ai toujours eu une attirance pour la mort.
Vous me dites ça en me fixant et je ne sais pas s'il y a une part de plaisanterie ou pas dedans.
Bah, non, il n'y a pas de plaisanterie, j'ai pas peur de la mort.
Mais d'une façon gothique, une attraction parce qu'on ne s'aime pas ou qu'on n'aime pas le réel ou un intérêt
Non, non c'est plutôt une curiosité. Ça va avec la dissolution et ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que je sais pas si j'ai toujours, je crois pas que ça a toujours été comme ça, mais je crois à une dissolution de l'être, j'ai l'impression que on fait l'expérience de la mort quotidiennement, tous les soirs. À chaque fois qu'on va se coucher, c'est une sorte de mort et une répétition de la mort, une répétition dans les deux sens du mot.
Vous en parlez dans Sans valeur, Gaëlle Aubiégli, puisqu'à un moment vous dites que pour philosophie, vous vous imaginez morte et vous vous entraînez à être morte.
Oui.
Comment est-ce qu'on s'entraîne à mourir ?
Bah, justement, en fait, c'est un effort mental où un effort mental où on parvient à n'être personne, à n'être rien, à être... l'image qui me vient, c'est un petit bout de savon qui se dissout dans l'eau et qui va reprendre forme autrement ailleurs. C'est un peu peut-être abstrait.
Non, c'est presque le zen ou le bouddhisme ou le...
Peut-être, mais j'ai pas de pratique religieuse.
Gaëlle Aubiégli, vous affectionnez les postes impersonnels comme hôtesse d'accueil. Je l'ai fait aussi, donc je peux dire qu'en effet, c'est assez impersonnel. Ça vous garantit une position d'observation unique pour écrire. Mais quand vous trouvez ces postes, vous devez changer régulièrement parce que parfois, quelqu'un fait attention à vous et se rend compte que vous avez un carnet sur vous.
Oui, parfois je dois partir parce que on s'intéresse trop à moi et ou bien il y a trop de moments de conversation et dans ce cas je peux pas rester.
Vous aimez vraiment être incognito ?
Oui, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. En même temps, je suis comme tout le monde. J'aime bien aussi parfois attirer l'attention. Mais j'aime bien. Quand je dis j'aime bien, c'est que ça m'est utile, C'est une position utile pour travailler, pour écrire, pour observer. C'est pas juste le plaisir de passer inaperçu. C'est pour pouvoir écrire.
Dans Le Monde en 2017, vous disiez « Je ne suis en rien écrivain et c'est pour cela que je peux écrire. Me maintenir dans les emplois les plus ingrats revient à ne pas affronter la culpabilité que me vaudrait la réussite. » Moi, je lis d'assez bonnes critiques de votre livre « Sans valeur, vous ne le vivez pas trop mal »
Non, ça va. Mais en même temps, je suis pas spécialement envie qu'on en parle beaucoup. Mais ça me fait plaisir que les critiques soient bonnes. Ça veut dire que les gens le lisent attentivement et que ça leur apporte quelque chose.
Mais si on en parlait beaucoup plus, ça vous gênerait ?
Je pense que ça me gênerait, oui.
Sans valeur, dedans, vous trouvez un monticule d'ordures sous les arcades d'un immeuble de bureau rue de Charonne à Paris. À une période où vous devez trier vos affaires avant un déménagement, et l'interrogation principale du livre, c'est est-ce qu'on jette ou est-ce qu'on archive ? Est-ce que c'est une question que vous vous posiez déjà souvent avant d'écrire ce livre ?
Oui, c'est la question du déchet, de cette séparation, discrimination entre ce qui va rester avec moi. On va continuer un peu ensemble parce que je parle un petit peu à mes affaires, ou bien non, c'est fini. Ça, c'est quelque chose qui m'occupe depuis longtemps. Je peux pas dire à quel moment ça a commencé exactement, mais parfois, même quand je débarrasse la table, eh bien, un petit bout de pain peut être sauvegardé. Enfin, je peux pas m'en séparer. Et alors qu'il y a des choses qui sont soi-disant précieuses, dont je me fiche complètement, et ça part en moins de deux. Ça va sur le trottoir, et puis ça disparaît parce que ça intéresse quelqu'un. Voilà.
On se rend compte du caractère absolument subjectif de la valeur. On pense en vous lisant au coût, au salaire, et puis j'ai lu que vous pratiquiez le bénévolat.
Ouais, un tout petit peu.
Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas vous acheter ?
Probablement ce petit tas d'ordures que j'ai recueilli.
Le héros du livre.
Le héros du livre, ouais.
Vous l'avez encore ?
Non, je vais dire autre chose. Mon chat.
Ah oui, alors le chat qui métamorphose aussi le tas d'ordures puisqu'il le brasse.
Ouais, il le brasse. C'est quand j'ai recueilli un petit tas d'ordures que j'ai trouvé dans la rue. Je l'ai apporté dans ma chambre que j'étais en train de vider. Et j'avais ça dans un petit cajot. Et le chat, immédiatement, est allé dans ce cajot. Il a reniflé toutes les choses. Il a marché dessus comme s'il les tamponnait. Il a lui-même a fait un tri, selon des critères qui m'échappent. Et donc, j'ai été précédée quand même dans mon entreprise d'analyse d'un petit tas d'ordures.
C'est un livre à deux mains et à deux pattes.
On pourrait dire ça.
Enfin, s'il utilise que les pattes de devant, mais s'il utilise les pattes de derrière, on pourrait dire « J'ai vraiment la quatre pattes, il faut que je sorte de cette blague. Aidez-moi !» À quoi n'accordez-vous aucune valeur ?
Très difficile de répondre. Il y a certainement quelque chose et la réponse va me venir après, mais justement, j'attache de la valeur à vraiment presque tout, quoi.
Gaëlle Aubiegli, il y a des échos avec votre musée des valeurs sentimentales qui est un livre, mais aussi un vrai musée.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez le raconter aux auditeurs ?
Oui. C'est un musée que j'ai fondé avec deux personnes qui sont des amies. Une historienne de l'art qui s'appelle Francesca Alberti et une architecte qui s'appelle Stéphanie Fabre. C'est une idée que j'ai eue il y a longtemps, dans les années 90. J'avais le projet de trouver un hangar que je transformerais en musée où on recueillerait les objets à forte valeur sentimentale dont les gens veulent se débarrasser. Et ensuite, on a j'ai pas trouvé de lieu, donc c'est un musée itinérant avec une réserve où on recueille par le bouche à oreille, on fait aucune communication sur ce musée. Les gens nous trouvent par hasard. On recueille des objets qui sont en quelque sorte des objets tabous. Parce que c'est des objets avec lesquels les gens ne veulent plus vivre, ou ne peuvent plus vivre, mais ils peuvent pas non plus s'en débarrasser à cause de la valeur sentimentale de l'objet. Alors, ils nous contactent, on a une première entrevue, et ils viennent, ils nous parlent, on pose des questions précises, on ne sait pas quel est l'objet, et ils nous le décrivent. Ensuite, il se passe une semaine, 10 jours, pendant lesquels on discute, on réfléchit, et on finit par accepter ou non l'objet. Et quand on accepte, il y a un rendez-vous et il y a plusieurs séances au cours desquelles le donateur ou la donatrice vient nous raconter tout ce qui est en rapport avec cet objet. Moi, j'en fais un récit. Francesca Alberti, qui est l'historienne de l'art, elle prend en charge la part matérielle de l'objet et son archivage. Et quant à la troisième personne, Stéphanie Fabre, elle est surtout active quand on expose les objets. Voilà, elle a un très grand sens de l'espace. Mais en réalité, je vous dis ça, mais nos places ne sont pas aussi, aussi assignées. Oui.
On peut visiter ?
Non. Non, parce qu'il n'y a pas de lieu. Mais parfois, on fait des expositions. Si on nous invite dans un lieu, on expose les objets. C'est déjà arrivé.
Parfois, des gens veulent récupérer leur objet ?
C'est jamais arrivé.
Ils vous émeuvent, ces objets ?
Certains, oui.
Tout à l'heure, vous avez dit, Gaëlle Aubier-Gly, que justement, tout était important pour vous. Tout vous touchait, vous sembliez réceptive à tout. Est-ce que ce n'est pas trop éprouvant ?
Non. Non, parce que c'est pas non plus. Je suis pas fendue de douleur devant un tabouret, quand même. Même si dernièrement j'ai lu une phrase de Max Jacob dans une lettre écrite à un de ses amis où il dit que être poète, ça consiste à être bouleversé, plein de douleur à la vision d'une chaise, d'une table ou de n'importe quelle chose. J'ai adoré cette définition.
Ben, parce que quand on lit Sans valeur, Gaëlle Aubier-Gly, on se dit que ce petit ador dur que vous trouvez et que vous rapportez chez vous, il vous bouleverse, il prend même la place de tout l'espace dans vos pensées et c'est comme la voix qui vous hante dans Totalement inconnu. J'ai l'impression qu'on peut facilement entrer en vous et prendre la place.
Oui, assez facilement. Mais là, dans le petit ador dur, mais parce que je recherche aussi ces situations d'emprise, parce que c'est un moyen de se dissoudre et de se vêtir, d'incarner, d'être un autre pendant un certain temps.
Est-ce que c'est vrai que dans les monoprix, dans les rayons, vous ne savez pas quoi acheter, vous regardez les paniers des gens qui vous plaisent et vous achetez les mêmes articles qu'eux ?
Souvent, oui.
Quel est l'article le plus insolite que vous ayez mis dans votre panier ?
De l'eau de Javel. Et du coup, je suis devenue un peu accro à l'eau de Javel.
Vous la buvez ?
Non. Mais j'achetais jamais d'eau de Javel. J'ai vu une dame qui achetait du pain de mie et de l'eau de Javel et j'adorais cette dame, très âgée. J'adorais cette dame, donc je la suivais un peu. Elle n'a acheté que ça. J'ai acheté exactement la même chose. Et ben voilà, je suis devenue une adepte de l'eau de Javel.
Vous dites, Gaëlle Aubier-Gly, que l'histoire décrite dans Sans valeur est la vôtre, mais qu'écrite, elle vous plaît davantage parce qu'elle est plus légère que votre propre histoire.
Oui, parce que pour revenir au petit tas d'ordures. Qui me hante, qui m'a hantée, en tout cas pendant au point de lui consacrer un livre, et qui me hante encore. Je pense que c'est la forme suprême de mon narcissisme. C'est-à-dire que je me vois jusque dans un tas d'ordures. Je pense que je ne pouvais pas tomber plus bas, mais ça me réjouit.
Et c'est quelque chose de narcissique, de se voir dans tout.
Vous savez, si un petit tas d'ordures comme ça m'interpelle, c'est pas uniquement parce qu'il a des qualités esthétiques, et il en a, c'est parce que il me tend la main, parce que j'y vois quelque chose qui me concerne. Donc, je me suis projetée dans ce petit tas d'ordures. Donc, c'est quand même une forme, c'est une forme de narcissisme.
J'ai encore énormément de questions à vous poser, Gaëlle Obiegli. Vous êtes une créature énigmatique et drôle et fantaisiste et mystérieuse. Mais on va écouter d'abord le morceau que vous avez choisi qui va absolument parfaitement avec le sujet, puisque c'est Junk de Paul McCartney. Un petit mot dessus ?
Oui, c'est une chanson qui veut dire poubelle, oui. Qui est d'une fragilité réjouissante. J'adore cette chanson qui parle d'une poubelle, une poubelle qui parle.
Motor cars, handlebars, bicycles for two, broken hearted to believe. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree.
Junk de Paul McCartney dans Grand Canal sur France Inter. Gaëlle Obiegli, on continue d'évoquer votre livre intitulé Sans valeur. Il y a un aspect politique, un aspect social dans ce livre et vous faites remarquer qu'il y a des vies qui ne produisent pas d'archives. On juge soit ce qui mérite d'être archivé ou la société le fait pour nous.
Oui. L'archive, ce dont je parle dans le livre à ce moment-là, c'est le lien de l'archive avec le pouvoir. Et effectivement, l'archive, elle est toujours liée à des décideurs, à l'époque, à ce à quoi on s'intéresse à un certain moment. Il y a des choses qui passent à l'as, qui passent à travers, qui n'ont pas d'intérêt. Je parle aussi dans ce livre d'autres situations où, à l'inverse, il y a des documents qui ont trop de valeur et qu'il faut faire disparaître de la même manière que disparaissent des choses qui n'intéressent personne. Donc il y a tout ça est dépendant de l'époque dans laquelle on vit et de ces tabous. Les deux choses que je mentionne dans le livre, c'est par exemple la correspondance de Adorno et Krakauer que j'ai lue. Elle a été publiée en français il n'y a pas très longtemps. C'était secret ce qui était secret, c'était leur relation amoureuse qui était secrète parce que aussi il y avait une loi jusqu'en 1992 qui pénalisait l'homosexualité. Et donc ça, ce sont des archives qui ont été sauvées, mais qui auraient pu disparaître, comme c'est le cas de une grande partie de la correspondance de Eleanor Roosevelt et Lorena Hickok, pour les mêmes raisons. Donc vous voyez, c'est, selon les mœurs de l'époque, on fait disparaître certaines choses.
Je ne crois pas à la mort. Pour moi, quand quelqu'un meurt, c'est juste qu'il est sorti faire un tour, faire une course et qu'il tarde à rentrer.
Death means a lot of money.
La mort, ça coûte cher, chérie.
Death can really make you look like a star.
En mourant, tu peux vraiment te transformer en star. Mais si ton maquillage est mauvais, alors ça peut être complètement raté.
Interview télévisée d'Andy Warhol, datant de 1982. Gaël Obiegli, vous citez son livre « Ma philosophie de A à B et vice-versa » dans votre livre intitulé « Sans valeur ». Et dans ce livre, Andy Warhol dit que s'il a peur de la mort, c'est uniquement parce que sa mère trouverait chez lui, en plus du vibromasseur, tout ce qu'il a écrit sur elle dans son journal. Et vous, vous écrivez, Gaël Obiegli, que si la mort vous inquiète, cela tient uniquement à la question de vos archives. Vous préférez que vos affaires soient détruites plutôt qu'archivées, et vous parlez du scandale que pourrait provoquer le fait de retrouver certaines affaires, comme des courriers, des photos de vous nus. Et puis vous vous inquiétez aussi pour une boîte emplie de cheveux et de poils de chat. Moi, c'est ça qui m'intrigue le plus. Comment avez-vous l'idée de cette boîte?
J'ai beaucoup d'intérêt pour les cheveux, parce que il y a longtemps maintenant, il y a plusieurs dizaines d'années, j'ai eu l'intuition que le mal se trouvait dans mes cheveux. Et donc dès qu'il y a trop de mal dans ma vie et à l'échelle planétaire, je coupe des mèches de cheveux, mais je les garde.
Sur vous ou à d'autres gens?
Non, uniquement sur moi. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, ça m'a traversé l'esprit, et j'arrive pas à me défaire de cette croyance. Et ce qui fait que je suis coiffée n'importe comment, parce que j'interviens de manière autoritaire sur ma tête.
En ce moment, vous coupez beaucoup de mèches?
Non, là, j'ai pas coupé de cheveux depuis assez longtemps, et j'essaye de me calmer avec cette...
Pourtant, il y a du mal en ce moment.
Oui, il y a du mal, oui. Mais j'essaie de me calmer avec cette obsession du mal et des cheveux.
Gaël Obiegli, dans Sans valeur, vous dites que vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses, notamment d'un embryon, et vous dites « Je n'y pense jamais comme à tout ce dont je me suis débarrassé ». Est-ce que vous avez toujours eu cette faculté d'oubli, ou est-ce que c'est une faculté de concentration sur le présent?
Je n'oublie rien. J'ai une grande mémoire, mais et j'arrive à me concentrer de manière très efficace sur le présent, comme vous dites.
J'éprouve autant de jouissance que de désespoir à faire sortir de mon espace les éléments bannis de mon futur, une jouissance comme la défécation, un désespoir comme le chagrin d'amour. La défécation est une jouissance?
Oui.
Toujours?
Oui. Oui, oui. Comme les larmes.
Ah oui?
Comme...
L'excrétion.
Voilà, c'est ça. Le fait de sortir quelque chose de soi. Peut-être comme l'écriture a quelque chose à voir avec ça.
Le parallèle d'ailleurs entre les...
C'est un peu moche, hein, de dire ça comme ça. Mais l'excrétion, la parole, l'écriture, ça répond au même mouvement de jaillissement et de sortie de soi-même. C'est pour ça que je dis que je dis ça dans le livre. C'est peut-être inadmissible de dire une chose pareille, mais dans l'écriture, écrire et même publier, d'une certaine façon, c'est produire des déchets, dans le sens où on pourrait garder ça pour soi, à l'intérieur de soi. Mais on le sort, comme on sort ses larmes, etc.
Mais il peut y avoir de la souffrance.
De la souffrance.
Dans le fait de sortir les choses de soi, d'une manière ou d'une autre.
Certainement. Mais dans mon cas, j'ai pas vraiment de souffrance quand j'écris.
Tout ce que vous voyez ici vient des années 80-90. Mongo, c'est le nom qu'on donne aux objets que les gens ont jetés. On récupère, auquel on donne une deuxième vie. C'est ma passion. Ce que vous voyez ici, c'est des objets jetés chaque jour par les New-Yorkais. Il y a 45 000, 50 000 objets dans ma collection. tous ont une histoire à raconter. Je suis content de les avoir ramassés, autrement ils auraient été abandonnés ou incinérés. Je suis content de les avoir sauvés.
Les boueurs new-yorkais Nelson Molina en 2023. Gaëlle Obiegli, vous en parlez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez le présenter aux auditeurs ?
Oui, c'est un éboueur qui a la passion... En tout cas, il récupère beaucoup de choses en faisant sa tournée. Et dans le local où sont rangés les camions, il y a un étage où il a installé une sorte de... Il a installé un musée. Mais c'est un musée que personne ne peut visiter. C'est un musée pour lui et pour ses collègues.
Comme le vôtre.
Comme le mien, oui. Et alors, il récupère tout un tas de choses quand il fait sa tournée. Et puis, il est un peu connu. Alors, il y a des concierges qui mettent de côté certaines choses qu'eux trouvent intéressantes. Il ne les prend pas forcément. Il y a des collègues qui lui disent « Tiens, j'ai trouvé ça pour ton musée. » Mais lui, il a un goût très précis, qui n'est pas identifiable. Il n'y a pas vraiment de critères. En tout cas, le critère du laid ou du beau, ça n'existe pas. C'est autre chose.
Avec ce petit tas d'ordures que vous avez recueilli, Gaëlle Obiegli, il y a une évolution de votre relation à lui, une évolution de l'amour, puisqu'à un moment, vous vous êtes rendu compte qu'il était raciste.
Mm.
Et puis à un autre moment, vous parlez d'une crise de folie vous concernant.
Mm.
Et ça m'a fait penser au livre Le locataire chimérique de Topor.
Ah oui.
Vous connaissez l'histoire ?
Non, non, non.
Il a été porté à l'écran sous le titre Le locataire par Polanski.
Oui, d'accord.
Et vous voyez ce que c'est ?
Oui, je vois.
Et c'est quelqu'un qui en fait loue l'appartement d'une femme qui s'est défenestrée et qui devient peu à peu comme elle.
Oui. Alors le petit tas d'ordures, j'ai vraiment tourné autour, je l'ai étudié, je l'ai analysé. Et dans ce livre, j'ai voulu en rendre compte d'une manière non pas exhaustive, mais en montrant d'abord l'élan presque érotique qu'il suscite, et la rencontre, et tout son aspect mystérieux, attirant. Et la deuxième partie du livre montre au contraire qu'il s'agit vraiment bien d'un petit tas d'ordures, littéralement, et qu'il est constitué de pensées et de... nauséabonde.
À aucun moment il ne vous a dégoûté, je parle de l'aspect matériel.
Non, ça m'a pas dégoûté, c'est vrai que c'était sale, mais non, j'ai nettoyé toutes les choses, et bon, c'est un peu comme l'amour, quoi. C'est bizarre, parfois on est attiré par une personne, on se soucie pas de sa propreté. C'est l'attirance. Et effectivement, au bout d'un moment, il y a quelque chose dans ce petit tas d'ordures qui me déplaît. Mais en même temps, il y a eu une espèce de un transfert d'intimité qui a eu lieu. Je me suis tellement intéressée à ces documents, à cette ordure, que je m'y suis projetée. Et à un moment... j'étais devenue la personne dépositaire de ces ordures. Ce qui est toujours intéressant, en fait, d'être un peu quelqu'un d'autre, parce que on accroît sa connaissance de l'humanité, de l'âme humaine. C'est intéressant de devenir épouvantable à un moment, temporairement, et de s'en rendre compte, parce que on s'enrichit.
J'aime bien quand mon chat danse. J'aime bien sa nonchalance. Pendant que le monde avance. J'aime bien quand mon chat danse. J'aime bien sa nonchalance. Pendant que le monde avance.
Constantino et Prosper, mon chat danse. Et à ce sujet, Gaël Obieli, comment s'appelle votre chat ?
Socrate.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Gaël Obieli, je vous ai demandé une petite découverte pour les auditeurs et vous avez choisi un tableau du Palazzo Doria Pamphili à Rome représentant un jeune homme traditionnellement attribué au Maestro della Candela et qui vient d'être réattribué à Giacomo Massa, peintre du XVIIe siècle. Je vous laisse décrire le tableau en question.
Oui, alors ça n'est pas sans rapport avec le petit tas d'ordures. Et c'était en 2015, je me promenais dans la Galleria Doria Pamphili qui se trouve à Rome, où il y a vraiment des œuvres remarquables de Velázquez, de Jérôme Bosch, enfin des œuvres qui sont très importantes pour l'histoire de l'art. Et tout à coup, mon regard, mon corps est attiré, comme tiré par la manche, vers la droite, et je vois un tableau de petite taille, enfin c'est grand comme un grand cahier, qui représente un jeune homme sur fond noir, qui a la bouche ouverte, qui a l'air, on ne sait pas s'il est en extase ou s'il est abruti, et la bouche ouverte est le centre du tableau, et moi j'ai été happée par cette vision, vraiment un tableau qui est pas du tout mis en valeur et qui probablement n'avait pas grand intérêt pour les conservateurs, mais un tableau avec qui a un magnétisme incroyable. C'est un visage avec la lueur d'une bougie, on voit un tout petit peu la flamme, et l'expression du visage est vraiment comme une photo ratée. Si je prenais une photo de vous, par exemple, en train de parler, vous auriez le visage tordu et vous me diriez de la détruire. Mais le tableau, c'est ce genre d'expression, vous voyez, tordu. Mais moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'il a la bouche ouverte et sa bouche, donc c'est un trou noir. Et on a l'impression que tout le tableau, toute la peinture s'organise autour de ce trou noir qui est le lieu de la parole, le lieu du souffle. Et c'est magnétique.
Ça me fait penser à un autre tableau, Gaël Obieli, à l'occasion de la sortie de votre ouvrage Faune. Vous disiez que certains anthropomorphisent les animaux, et vous, c'est l'inverse, vous regardez les humains et vous voyez à quels animaux ils ressemblent. Oui. Dans Sans Valeur, il y a un tableau, un autoportrait de vous, donc en singe pensif. dont vous vous débarrassez, et puis vous le regrettez, et quand vous voyez que quelqu'un a pris ce tableau, et ben vous désirez ce tableau, et là c'est le désir triangulaire de René Girard, c'est-à-dire qu'on désire une chose uniquement parce que quelqu'un d'autre la désire.
Exactement. Et c'est ce qui se passe souvent quand on jette quelque chose et on voit quelqu'un le prendre. Et très souvent, on a un petit regret. Parce que le désir de l'autre, comme vous dites, réactive le nôtre.
À un moment, vous avez cette interrogation. Comment faire le vide sans blesser personne?
Oui.
C'est un fantasme?
C'est pas un fantasme, c'est un idéal. L'idéal de vide. Faire le vide, effectivement, ça veut dire que dans un sens très large, ça veut dire renoncer à certaines relations, renoncer aussi à des choses qui vous ont été transmises. C'est une opération quand même assez violente ou agressive que de se débarrasser. Parce que ce qu'on a, on ne l'a pas uniquement, on l'a reçu de différentes personnes. Et donc c'est à eux qu'on dit non aussi, d'une certaine façon. C'est en ça que je dis sans blesser personne.
Gaëlle Obiegli, est-ce que vous pensez à la vie des objets qui vous entourent après votre mort? Je ne parle pas des archives, je ne parle pas des choses qui feraient scandale que vous avez évoquées tout à l'heure. Je parle simplement des objets. Par exemple, je pense que beaucoup d'auditeurs ont déjà expérimenté une chose assez commune, hélas, qui est de vider des maisons de disparus proches. Et je sais que moi, quand ça m'est arrivé, par exemple, après, pendant longtemps, à chaque fois que j'allais chez quelqu'un et qu'il y avait plein d'affaires, je me disais, oh là là, lui, quand il va mourir, ça va être vraiment long à débarrasser.
Oui, je pense aussi à ça quand je vais chez des gens qui ont beaucoup de choses. Non, je ne pense pas tellement à mes possessions. Il y a juste un truc, c'est un petit bol de rien du tout, doré, que quelqu'un a volé pour moi dans un magasin il y a longtemps. Je voulais ce petit bol et la personne a pris un risque vraiment assez important pour le voler. Et il m'a accompagnée dans toutes sortes de déménagements. Je l'ai toujours trouvé une place parce qu'il n'est pas grand. Et bien, ce petit bol, au nom du risque qui a été pris et de l'engagement de cette personne, je n'aimerais pas qu'il soit broyé ou qu'il soit réduit en miettes.
Vous pouvez organiser quelque chose de votre vivant pour vous assurer de son destin?
Non, alors ce que j'ai organisé de mon vivant, le petit bol, oui, je vais y réfléchir, mais non, en revanche, ce que j'ai organisé, c'est la destruction de mes archives.
Avec quelqu'un de confiance?
Toutes mes choses, sauf les correspondances.
Mais qui va s'en charger? Parce que si la personne meurt avant vous...
Oui, c'est ça, j'ai désigné quelqu'un, mais si la personne meurt avant moi, c'est compliqué. Non, mais je l'ai fait vraiment juridiquement, hein. C'est pas, je n'ai pas juste chargé quelqu'un de le faire, je l'ai organisé, sauf les correspondances. Parce que les correspondances, ça ne m'appartient pas totalement. Et comme je suis allée à l'école en internat assez jeune, j'ai commencé à correspondre très jeune. Et donc j'ai beaucoup de lettres.
Merci beaucoup Gaëlle Obiegli.
Merci à vous.
Je rappelle que votre livre intitulé « Sans valeur » est paru le 10 janvier aux éditions Bayard. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Alexandre Chenet.